qu'est-ce qui fonde une nation? Une constitution, on imagine souvent un texte un peu poussiéreux, presque intouchable, mais et si on repartait d'une page blanche? Aujourd'hui, on mettrait quoi dedans?
C'est une question vertigineuse. Et justement, les sources qu'on analyse aujourd'hui, elles ne font pas que la poser, cette question. Elles y répondent. Et de manière radicale.
On a mis la main sur une proposition complète de constitution alternative. Un document qui s'appelle « Notre constitution modèle ».
C'est ça.
Et notre mission, c'est de plonger dedans pour comprendre la vision du monde qu'elle dessine. Et franchement, ça secoue pas mal de certitudes.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas une simple révision, hein. C'est une refondation. Le fil conducteur, il est martelé dès le début. Protéger tous les citoyens des abus de pouvoir.
D'accord.
Tout le texte découle de cette méfiance, en fait. Une méfiance quasi totale envers la concentration du pouvoir. Pour décortiquer ça, on peut voir trois grands piliers. Et après, on verra comment cette logique est appliquée à tout le reste. La monnaie, les médias, rien n'y échappe.
Alors, commençons par la base. Le citoyen. D'entrée de jeu, le texte fait un truc assez déroutant, je trouve. Il sépare la citoyenneté de la nationalité.
Oui, on peut être citoyen sans être français, et l'inverse est vrai aussi. Ça, déjà, ça pose un cadre complètement différent.
Et ça prépare le terrain pour l'idée principale, j'ai l'impression.
Exactement. L'idée que la citoyenneté n'est pas juste un statut, c'est un engagement. C'est pour ça qu'il crée un deuxième niveau, le citoyen civique.
Et pour devenir citoyen civique, il faut faire quoi?
Eh ben, il faut suivre une formation. Et, en gros, passer en examen. C'est la condition pour avoir les droits politiques, comme le droit de vote.
Attends, ça veut dire que pour avoir le droit de voter, il faudrait d'abord prouver qu'on a les compétences.
C'est l'idée.
Ça peut être perçu comme très élitiste, non? On retire le droit de vote à ceux qui ne font pas la démarche?
On peut voir comme ça, oui. Ou alors, à l'inverse, comme une façon de revaloriser l'acte de vote. De dire que ça demande une connaissance des règles du jeu. Le texte ne tranche pas, il pose juste le mécanisme. Mais là où ça devient vraiment dingue, c'est avec le troisième statut.
Le citoyen actif.
Le citoyen actif. Lui, c'est le niveau super-héros, comme vous disiez.
C'est un peu ça.
C'est un statut qui est purement volontaire. Un citoyen civique peut se déclarer actif.
D'accord. Et ça change quoi pour lui?
Ça lui donne plus de responsabilités, mais surtout un devoir qui est fondamental. S'il est tiré au sort pour un mandat, par exemple, dans une commission de contrôle, il ne peut pas refuser.
Il ne peut pas refuser. C'est éthique. C'est un engagement énorme.
Immense.
L'intention, c'est donc de créer une sorte de réserve de volontaires. Un contingent de gens sur qui le système peut compter.
C'est exactement ça. Le système reconnaît qu'une démocratie aussi participative, elle ne peut pas reposer sur tout le monde tout le temps. Ce n'est pas réaliste.
Il faut un noyau dur.
Voilà. Un moteur de citoyens qui sont formés, qui sont ultra engagés. Ces actifs, c'est le carburant qui fait tourner toute la machine démocratique. Le volontariat est au cœur du réacteur, quoi.
D'accord. Donc on a ces citoyens définis, formés, avec des volontaires pour les tâches lourdes. La question qui vient après, c'est quel pouvoir concret on leur donne? Et là, j'ai l'impression qu'on entre dans le vif du sujet.
Ah oui, là on change complètement de dimension. Le principe pour le pouvoir législatif, il est posé, sans aucune ambiguïté. Toute loi que les citoyens n'ont pas approuvée est nulle.
C'est direct.
C'est aussi simple que ça. Le législateur final, ce n'est plus le Parlement, c'est le peuple.
Et pour que ça fonctionne, le texte déploie une vraie boîte à outils. L'outil principal, c'est le fameux référendum d'initiative citoyenne, l'ORIC. On le retrouve partout.
N'importe quel citoyen peut lancer une initiative. Mais c'est dans les détails que ça devient fascinant. Prenez les seuils pour les pétitions, par exemple.
Oui, oui.
Avec 500 000 signatures, une proposition de loi passe automatiquement au vote. Il y a des référendums organisés tous les 6 mois pour ça.
Et si on veut toucher à la Constitution?
Là, c'est 2 millions de signatures. Ce sont des chiffres qui semblent, disons, atteignables.
Mais il y a une idée encore plus originale, presque poétique. Les référendums à diamètre croissant.
Ah oui, ça, c'est une vision très organique de la loi. L'idée, c'est qu'une proposition peut naître au niveau le plus local possible. Une rue, un village.
D'accord.
Si elle est approuvée à ce niveau, ça déclenche automatiquement un référendum à l'échelle de la commune. Si ça passe, on monte au département. Et ainsi de suite jusqu'au niveau national.
C'est fou. J'imagine la logistique. On commence par un vote pour repeindre un banc, et 6 mois plus tard, on est peut-être en train de réécrire le code du travail.
C'est vertigineux, oui. L'idée chemine, et à chaque étape, elle doit convaincre un cercle de citoyens de plus en plus large. Et pour être sûr de ne rien rater, il réhabilite même les cahiers de doléances de 1789.
C'est d'un retour aux sources, littéralement.
Tout à fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça inverse complètement le flux du pouvoir. Dans ce système, le Parlement, qu'ils appellent « Assemblée confédérale ».
Et qui est composé de citoyens tirés au sort, d'ailleurs.
Oui, eh bien ce Parlement n'est plus le centre du pouvoir. Il devient une sorte de chambre d'enregistrement, d'aide à la rédaction.
Son rôle, c'est de mettre en forme les idées des citoyens.
Voilà, de débattre, d'améliorer. Mais il n'a pas le dernier mot. La loi ne descend plus d'en haut, elle émerge d'en bas.
C'est une rupture totale. Et si le citoyen a le pouvoir de faire la loi, je suppose qu'il a aussi le pouvoir de tout contrôler. Le texte a une réponse à ça, et elle est ambitieuse. Ces fameuses commissions de contrôle.
C'est peut-être la pièce maîtresse de tout l'édifice, le véritable quatrième pouvoir citoyen. Le principe est simple. Pour chaque grand pouvoir de l'État, on crée une commission de contrôle.
D'accord, et elle est composée comment? Par des experts? Des juges?
Non, et c'est là toute la radicalité du projet. Chaque commission est composée de 99 citoyens tirés au sort.
Tirés au sort?
Oui, parmi les fameux citoyens actifs. Et avec un mandat très court, 1 an et demi, non renouvelable.
Mais attendez, s'ils changent tout le temps, comment on assure la continuité, la compétence? On ne s'improvise pas contrôleur du pouvoir judiciaire comme ça.
Le texte a une réponse, les commissions se renouvellent par tiers tous les 6 mois.
Ah d'accord.
L'idée, c'est une sorte de compagnonnage. Les anciens forment les nouveaux en interne. C'est un système qui est censé s'auto-alimenter en compétences. Et n'importe quel citoyen peut les saisir.
Je vois le mécanisme, mais jusqu'où va ce contrôle? C'est quoi le champ d'action?
C'est là que ça devient spectaculaire. La liste des commissions montre que rien, absolument rien, n'est censé échapper au regard citoyen.
Par exemple?
Alors, il y a bien sûr une commission de contrôle constitutionnel qui remplace le Conseil constitutionnel, une commission de contrôle judiciaire, mais on trouve aussi une commission de contrôle du pouvoir monétaire.
Une commission de citoyens tirés au sort pour surveiller la Banque centrale.
Exactement. Et ça continue. Commission de contrôle des médias, commission de contrôle militaire, commission de contrôle de la police. Chaque parcelle du pouvoir régalien est sous surveillance directe.
Donc cette méfiance fondamentale dont on parlait au début, elle est institutionnalisée partout. C'est ça, l'idée.
C'est l'incarnation même de cette méfiance. Le système ne fait confiance à personne a priori. Le contrôle, ce n'est pas une option. C'est le mode de fonctionnement par défaut.
Et il y a des comptes à rendre, j'imagine.
Ah oui, le texte précise qu'à la fin de son mandat, n'importe quel élu ou mandataire doit subir un interrogatoire public, sous serment, devant la commission compétente. La transparence se veut absolue.
D'accord. J'imagine que cette logique de contrôle citoyen, elle s'étend encore au-delà.
Oui, elle s'applique à des domaines qui sont aujourd'hui considérés comme le précaré d'experts. Prenez le pouvoir monétaire. C'est une des propositions les plus audacieuses.
Allez-y, surprenez-moi.
Le projet instaure une banque centrale citoyenne. Ce n'est pas juste un nom. La création monétaire elle-même, elle est décidée par des assemblées et des commissions de citoyens tirées au sort.
On est à des années-lumière du système actuel.
Fini le gouverneur de la banque centrale qui décide seul. Ici, c'est une décision collective, citoyenne.
Et pour les médias, ça donne quoi?
Pour les médias, le texte grave dans le marbre une charte des devoirs essentiels du journaliste. Et c'est la commission de contrôle des médias, donc des citoyens, qui est chargée de la faire respecter.
Et elle a quel pouvoir, cette commission?
C'est elle qui distribue les cartes de presse. Et surtout, c'est elle qui peut les retirer en cas de manquement grave.
Ah oui, ça, c'est un point qui ferait hurler toute la profession. C'est une mise sous tutelle citoyenne, on peut voir ça comme une atteinte à la liberté de la presse.
Absolument. La contre-argumentation, ce serait de dire que ça garantit une presse plus responsable. Mais le risque d'une censure populaire est immense, on est d'accord. Et ça ne s'arrête pas là. Même l'armée est concernée.
Le pouvoir militaire, ouais. Comment?
La déclaration de guerre ne peut se faire que par référendum.
Donc plus de fait du prince.
C'est totalement aboli. Et en cas de conflit, la conduite des opérations est confiée à une cellule de guerre de 3 membres. Ils sont élus par l'Assemblée, mais ils sont révocables à tout moment.
D'accord.
L'idée, c'est d'empêcher qu'un pouvoir immense soit concentré dans les mains d'une seule personne. Même en temps de crise, on voit bien le schéma en fait. Le projet étend le contrôle citoyen à des domaines jugés trop complexes ou trop régaliens. La souveraineté citoyenne ne doit souffrir aucune exception.
En résumé, on a une démocratie où le pouvoir n'est plus délégué pour des années, mais
exercé et contrôlé en permanence.
Par les citoyens eux-mêmes.
C'est ça.
Des citoyens qui, selon les jours, peuvent être législateurs, contrôleurs, voire banquiers centraux. c'est la souveraineté populaire poussée à son extrême logique.
Le système est d'une cohérence interne presque implacable. La boucle est bouclée en permanence. Le peuple fait la loi, le peuple contrôle l'application de la loi et le peuple contrôle les contrôleurs.
C'est une ambition folle.
Mais cette cohérence, elle repose sur un seul postulat, un pilier central qui soutient tout. Un engagement citoyen massif.
Et constant.
Les fameux citoyens actifs.
Ces volontaires qui acceptent de donner leur temps et de ne pas pouvoir refuser les mandats. Eux, ils sont la véritable clé de voûte de l'édifice. Sans eux, tout s'effondre.
Et c'est là que ça devient compliqué, peut-être. Le texte détaille avec une précision d'horloger le comment, mais il laisse une question en suspens. Le pourquoi les gens participeraient.
Tout à fait.
Un système aussi exigeant, est-ce que ça peut vraiment fonctionner à l'échelle d'un grand pays?
C'est toute la question, oui. Que se passerait-il si le nombre de citoyens actifs volontaires venait à manquer pour faire tourner toutes ces commissions, toutes ces assemblées, si le carburant se tarit?
Le texte fait un pari. Le texte parie sur un sursaut civique. Sur l'idée que si on donne un vrai pouvoir aux gens, ils s'en saisiront. Mais ça reste un pari.
Un pari qui nous laisse avec une dernière pensée. Toute cette architecture, elle est conçue pour résister aux abus de pouvoir, à la corruption. Mais est-elle conçue pour résister à son ennemi le plus redoutable? L'indifférence. La démocratie directe, est-ce qu'elle peut survivre à l'apathie?